Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Voix au chapitre, Evelyne Jobin.
Bonjour, bienvenue dans Voix au chapitre. Je vous propose aujourd'hui la cinquième partie du roman de Jérôme Aumont, Un empêchement, paru en 2023 chez Christian Bourgois éditeur. Nous sommes toujours dans le récit de Xavier. Les jours et les semaines qui suivirent notre rencontre, je consacrai une énergie désespérée à tenter de te recroiser par tous les moyens. Je faisais fi de l'adage selon lequel la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit. Je contrariais ma nature solitaire et hantais tout ce que Paris comptait d'événements mondains où ta femme aurait pu, cédant à un nouveau caprice dont je la pensais désormais capable, imposer ta présence affable et par moi tant désirée. Lancement d'un parfum, présentation d'une collection de joaillerie, test d'un coupé sport, inauguration, dédicace et j'en passe. J'ai écumé les pires pince-fesses, les plus improbables raouts, et soudain conçu, avec une douloureuse acuité, que l'épiphanie n'avait valu que par sa singularité. J'ai alors commencé à saisir ton nom présupposé sur tous les moteurs de recherche répertoriés, présupposé car c'est bien à Marie que tout me ramenait et vers elle que tout convergeait. Portait-elle ton nom? Était-elle d'ailleurs ta femme au sens le plus prosaïque du terme? Ou t'étais-tu présenté comme son époux par goût pour la concision? Il me fallut quelques jours d'enquête pour répondre à ces questions. Vous étiez bel et bien passé devant monsieur le maire du 3e arrondissement, mais elle avait conservé son nom de jeune fille. Après avoir mis en puissance une somme considérable de paramètres et d'informations, je parvins à identifier ton état civil, ton année de naissance et même le nom de ton employeur. Pour me rendre compte que je n'avais pour autant pas avancé d'un millimètre. Allais-je me présenter à l'accueil de la société où tu officiais et prier le ou la standardiste de bien vouloir te prévenir que Xavier t'attendait en bas? Et quel Xavier, s'il vous plaît? Ah oui, désolé, le Xavier de la rue Royale. Très chic, mais encore? Eh bien, dites à Monsieur R que nous nous sommes rencontrés avec sa femme à une présentation presse, que je suis tombé éperdument amoureux de lui à l'instant que je l'ai vu, que je ne dors plus, ne mange plus et bois comme un trou, car seule l'ivresse soulage mon âme noire. Lyrisme échevelé, romantisme perclus, programme imparable. Succès garanti. Au mieux, le ou la standardiste éclate de rire et me demande avec qui j'ai rendez-vous et si j'ai vraiment rendez-vous. Au pire, il ou elle appelle la sécurité qui me reconduit illico à la frontière. Quelques jours plus tard, l'histoire te revient aux oreilles au détour d'une conversation près de la machine de café. Mais il est déjà trop tard, j'ai préféré quitter le pays à la hâte, pétri de honte et de chagrin. Après avoir étudié l'organigramme de ta société, j'avais fini par identifier ton adresse mail. J'ai d'abord envisagé le message rapide, leste et amical, puis une intense déclaration d'amour avec force effusion, promesse d'un avenir radieux et coordonnées GPS pour te permettre d'identifier le plus court chemin jusqu'à mon logis. À coup sûr, tu m'aurais catalogué comme un grand malade, alcoolique et érotomane, qui s'amourage du premier homme marié venu, pour peu que soient réunies quelques circonstances idoines, balcon parisien, serveur en livrée, champagne et orfèvrerie grand siècle. Autant dire que j'ai perdu beaucoup mon temps. Dans mes rêves les plus fous, je t'ai même imaginé en train de mener une enquête analogue pour me retrouver. Tu essayais de convaincre ta femme de te traîner un quelconque cocktail pour y recroiser mon regard d'émeraude. Car c'est évident, ton poste de DRH au sein d'une multinationale te laissait un temps libre considérable. Bref, tout cela était stupide. J'étais d'une naïveté confondante, d'une bêtise crasse et sur le point de faire une croix sur toi. Tout en toi me plaisait, mais je n'allais pas non plus m'étioler dans l'attente d'une hypothétique seconde chance, que le hasard, dans son infinie mansuétude, allait nous servir sur un plateau d'argent. 3 jours après cet amer constat, cette préméditation d'abandon, tu m'es apparu sous la verrière du Grand Palais, dans les allées encombrées de la Biennale des Antiquaires. Quand bien même je me serais entraîné chaque matin devant le petit miroir de ma salle de bain à mimer l'impromptu d'une rencontre fortuite, quand bien même j'aurais échelonné tout un spectre d'attitudes, de la nonchalance à l'enthousiasme démesuré, je n'aurais en rien pu anticiper ta présence, ta chaleur, l'intensité de ton regard, ce sourire qui illuminait ton visage. Je n'aurais en rien pu me préparer à cette autre vérité. C'est à ce moment précis que je suis tombé amoureux de toi. Ce que je n'avais alors que pressenti s'est abattu sur moi, m'a cloué sur place, coupé le souffle et les jambes. C'est à cet instant que j'ai compris que je n'étais ni stupide ni naïf, tu avais toi aussi cherché à me retrouver. Je sentais les veines battre sur mes tempes, des picotements me parcourir l'échine, ma gorge s'asséchait comme si la chaleur venait d'en aspirer méticuleusement toute la salive par capillarité. Je sentais à quel point tout commençait maintenant. C'est ici qu'il nous était donné de nous revoir, sous cette nef surchauffée, sous l'improbable égide d'un Cranach ou d'un Bruegel, dans un brouhaha surfait et auréolé de pâmoisons de surface. Dans ce temple de l'émerveillement mondain, nous étions les seuls à éprouver une émotion réelle, sous le regard de ta fille, dont j'ignorais l'existence 5 minutes plus tôt. Tu me présentas comme un confrère de ta femme et entrepris de résumer notre rencontre rue Royale. Jeanne me gratifia d'un beau sourire, auquel je prêtais peut-être plus d'intensité qu'il n'en contenait. Elle se dandinait sur la pointe de ses tennis d'un blanc immaculé. Elle me tendit la main, contrairement à son père, dont les bras semblaient être juste là pour le parfait équilibre de la silhouette, refusant de se tendre alors qu'il voulait tant étreindre. Sans doute par politesse, ta fille disparut aussitôt vers le stand le plus proche, admirant une rare série de masques venus d'Angola, je crois. Elle est très belle. Elle tient beaucoup de sa mère. Je vous trouve injuste avec vous-même. Rassurez-vous, je préfère qu'elle ait le nez et les jambes de sa mère. Si j'avais eu un garçon, je tiendrais sans doute un autre discours. Et cela ne m'empêche pas d'être très fière d'elle. Elle vient d'entrer aux Arts Déco, ce qui explique notre présence ici. Et moi, je suis censée faire un compte-rendu décalé de la biennale et le rendre à ma chef de rubrique demain matin. Elle est tombée malade hier. J'ai remarqué que les gens tombaient souvent malades le vendredi ou le samedi, surtout quand il y a un événement à couvrir le dimanche. Le hasard, sans doute. Cela nous aura permis de nous revoir. Je crois t'avoir répondu « c'était assez inespéré » ou pire encore « c'était inespéré ». Je sais juste que je regrettais aussitôt l'encombrante gravité que ma réponse invitait dans une conversation jusqu'ici informelle. J'aurais aussi bien pu te dire « je vous ai cherché dans tout Paris, la mise à nu n'eût pas été plus intégrale ». Ce dont je suis certain, c'est que je sentis le rouge me monter aux joues. « Je vous ai cherché l'autre soir avant de partir, mais vous aviez disparu. Ma femme était souffrante et nous sommes partis un peu vite. » Cela ne lui ressemble pas, c'est une grande professionnelle, vous savez. Mais elle ne s'économise pas et le paie, parfois. J'ai beau la supplier de se ménager, de déléguer davantage, elle n'écoute que sa déontologie, beaucoup moins son mari. Tu t'interrompis. Xavier, j'étais ravie de notre conversation sur ce balcon. Moi aussi, Mathieu. Il n'y avait rien d'anodin dans cette manière de prononcer nos prénoms respectifs, comme une intimité échafaudée à la hâte entre 2 allées. Mais je pressentais que la situation ne se prêtait guère à davantage, ta fille menaçait de réapparaître à tout moment, et bien que déstabilisée par ton sourire sans artifice et ta voix dénuée de toute stratégie, je saisis l'instant au vol pour te tendre ma carte de visite. Nous n'avons pas eu le temps l'autre soir, je... Merci, trancha-tu en plongeant ton regard dans le mien. Nous savions tous deux pertinemment que ce sésame était celui que nous espérions de toutes nos forces. Plus tard, tu m'avoueras t'être livré à la même quête. Tu me confieras comment tu m'as cherché tout en craignant de me retrouver. Comment tu as eu peur de t'être raconté des histoires, peur de voir s'effondrer ce qui n'était pourtant qu'ébauché, comme ces tours qui, par une simple pression sur un minuscule bouton rouge, s'ébranlent et s'affaissent sur elles-mêmes et semblent engloutir leurs plus infimes résidus. Peur de réaliser à quel point cette vie n'était depuis longtemps plus la tienne.
When I was young, younger than before, I never saw the truth hanging from the door. I know I'm only see face to face. I know I'm only
chapitre, Evelyne Jobin.
J'ai beaucoup rêvé à la suite de notre histoire. J'ai laissé mille désirs m'envahir et très vite renoncé à leur résister. Je n'étais pas préparée à toi, à tout ce que mon esprit nourrissait d'envie, de fantasmes aussi. Et j'avais beau me dire que je ne devais pas t'attendre, je n'en maudissais pas moins ton silence plus de 10 jours après notre rencontre sous la verrière du Grand Palais. Tu ne m'avais ni appelé, ni contacté d'aucune manière. Tu avais besoin de temps. Je ne savais pas quoi penser de cette vision de toi en costume de papa, de cette promenade dominicale avec ta fille, Jeanne. Jeanne qui admire des masques africains à la Biennale des Antiquaires. Jeanne qui s'éclipse avec délicatesse et discrétion lorsque son père croise par hasard une connaissance dans les allées du Grand Palais. Jeanne, qui préfère de loin la compagnie de son père à celle de sa mère, trop snob, pas disponible, agoraphobe, en plein bouclage de son prochain numéro. Jeanne et son père, qui partagent le goût des belles choses. Jeanne et sa mère, qui se sont encore disputées, à cause d'un garçon peut-être, ou parce que l'idéalisme un peu foutraque de l'une ne supporte pas le cynisme un peu trop bourgeois de l'autre. Jeanne qui adore son père et voudrait le voir plus heureux avec quelqu'un de plus aimant, moins autocentré. Quelqu'un qui saurait rire de tout et rire de rien. Quelqu'un qui verrait que son père n'est pas qu'un triste bureaucrate encravaté, mais un homme doux, drôle et attentionné, qui rêve de week-ends à la campagne, de balades sur la plage, de plateaux de fruits de mer et de blancs secs, de feux de bois et de mousse au chocolat maison. Jeanne, qui a quitté l'appartement familial dès qu'elle a eu son bac en poche. « Papa, je t'aime, mais je ne la supporte plus. Elle m'infantilise en permanence et ne cherche qu'à me convertir à son mode de pensée bourgeois, son petit monde où tout est parfait, où la moindre mèche de cheveux doit être domptée, le moindre faux pli repassé, la moindre imperfection photoshopée. Je n'ai jamais voulu lui ressembler. J'ai déjà hérité de son nez, ça me suffit, crois-moi. Qu'elle n'attende pas de moi que je sois son gentil petit clone. Ta fille, qui, à ton grand âme, a quitté sa chambre d'ado il y a un peu plus d'un an maintenant, préférant cohabiter dans un taudis mal chauffé du 19e avec ses deux meilleures copines. Ce n'est pas contre toi, papa. Il faut que je m'assume, que je coupe le cordon, que je m'émancipe de maman, de sa vision de tout ce que devrait être ma vie. J'ai trouvé un petit boulot pour financer ma part du loyer et remplir le frigo. Tu m'aideras si j'ai des fins de mois difficiles, mon papa ? Bien sûr qu'il t'aidera, Jeanne. Tu ne te rends pas compte, Jeanne. Tu es le fil qui a maintenu ton père en vie pendant ces 19 dernières années. Sans toi, il se serait effondré 100 fois, 1000 fois, aurait tout plaqué, tout envoyé balader. Lui qui a tant besoin d'être aimé, consolé, épaulé. D'accord, je me raconte sans doute un peu trop d'histoires. Je suis même sans doute à côté de la plaque. Ta femme était juste un peu plus loin, tombée en admiration devant un sautoir en aigle marine sur le stand d'un joaillier, sous la même nef du Grand Palais. Vous étiez peut-être en train de passer un agréable dimanche en famille. Un peu plus tard, vous alliez grimper de concert dans un taxi, commander de quoi dîner, vous blottir les uns contre les autres dans votre canapé en lin froissé. Peut-être devant un film en noir et blanc avec Katharine Hepburn ou Rita Hayworth. Comment le saurais-je ? Quand tout m'invite à gloser ad libitum sur ce « je vous ai cherché ». Et pourquoi m'as-tu cherché d'abord ? Parce que tu es un homme bien élevé ? Parce que nous évoluons dans un monde policé où l'on se doit de prendre congé dans les règles ? Au revoir monsieur, ce fut un plaisir, à bientôt peut-être ? Ou parce que, tu le sais, et ne vois-je rien venir, très tôt tu vas tout envoyer promener, ce boulot qui t'étouffe, cette cravate qui te serre, et ce canapé en lin froissé qui te gratte, parce que tu m'attendais, parce que tu m'as toujours cherché, parce que c'est évident tout ça au fond, pourquoi lutter ? On ne choisit pas de tomber amoureux, pas plus qu'on ne choisit de désaimer. On ne choisit pas grand-chose finalement, ni l'endroit où l'on voit le jour, ni la nuit où la vie vous prend de court, on choisit juste de se laisser porter ou de décliner poliment l'offre. Non merci, je ne suis pas intéressée, j'ai déjà donné, je n'ai pas le temps de vous parler, désolée. J'ai accepté l'attente et n'avais donc d'autre choix que de la faire mienne, de m'en repaître comme d'une interminable mise en bouche, un préliminaire, une promesse. Ton « je vous ai cherché » signifiait en fait que nous n'allions pas nous trouver tout de suite. Il faudrait du temps. Il faudrait que je comprenne. Parfois, la vie est un peu moins tragique qu'une chanson de Scott Walter. À peine avais-je tourné les talons sous cette verrière suffocante que Jeanne quitta sa robe de petite fille modèle pour redevenir la jeune femme qu'elle était en vérité. Elle te rejoignit un peu plus loin sur l'allée, interrompit sans ménagement ta douce rêverie en t'agrippant le bras. « Trop canon, ce Xavier !»« Tu le trouves à ton goût ? Je croyais que, passé 25 ans, on était rangé dans la case vieux beau. »« Ah ben, ça ne m'empêche pas de le trouver trop cute !»« Mais bon, c'est toujours la même histoire. Quand ils sont beaux comme ça, ils sont passés du côté obscur. »« Je ne comprends pas. »« Bah, tu n'as pas vu comment ils te dévoraient des yeux, sérieux ?» Ma main a coupé que ce garçon n'est pas très sensible au charme féminin, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Tu dis n'importe quoi, ma fille. Dans une vaine tentative de couper court au trouble dans lequel te précipitait cette apologie que ta fille faisait de moi, tu bifurquas sans autre procès vers le stand d'une galerie moderniste et te plongeas dans la contemplation d'un fauteuil ou d'une chaise, tu ne sais plus très bien. Alors que tu en effleurais mécaniquement le canage, tu pris le temps de savourer les paroles de ta fille. Ma délicatesse, ma douceur, ma gestuelle. Comment avait-elle pu ressentir tout ça en une poignée de mains et de secondes ? Cette génération était-elle à ce point douée d'un sens de l'observation, digne du scanner d'une caisse de supermarché, capable de tout enregistrer d'un regard distrait? Avait-elle de la même manière lu ton trouble? N'était-elle pas simplement ravie de voir que son père plaisait, fût-ce à un autre homme? À ce stade, tu n'espérais qu'une chose, qu'elle ne relate pas cet épisode devant sa mère lorsque vous la retrouveriez tout à l'heure. Tu n'étais pas certain que ta malassurance puisse survivre à deux flots consécutifs d'insinuations, et le second promettait d'être moins complice que le premier. Jeanne ne mentionna guère notre rencontre fortuite lorsque vous avez rejoint ta femme sous les lustres éclatants du tapageur café Berkeley. Elle but son chocolat chaud avec l'avidité d'un petit veau à peine sevré, paradoxe de l'âge, et se contenta sans malice ni menace de vanter à sa mère la beauté des statues africaines qu'elle avait admirées, pendant que tu flânais dans les allées sous les tilleuls verts de la promenade. Je ne suis pas un aventurier. Je n'ai pas de courage, pas de talent caché, pas le goût du risque, pas d'envie particulière de me dépasser, d'épater ou d'en découdre. Je suis toujours surpris d'éveiller ne serait-ce qu'un soupçon de curiosité. Cela ne m'empêche pas d'espérer, mais espérer est une autre chose. Un autre jour, une autre fois. Cette autre fois m'est tombée dessus au moment où je m'y attendais le moins. J'avais quitté Paris quelques jours, le temps d'un week-end de bas normand, taraudé par une envie de bons petits plats un peu trop riches, de draps qui sentent bon l'assouplissant, de réveil en douceur. J'étais chez ma mère, ma pauvre mère. Nicole N., née B., 63 ans, employée municipale à Équeumoville, ma mère. Une force de la nature dans une version contrariée, édulcorée. Grande gueule de salon, toujours prompte à éructer des « si je m'étais écouté, crois bien que… » ou des autres « j'étais à deux doigts de… » Mais en vérité, c'est bel et bien d'elle que j'avais hérité, maturé et peaufiné ma douce propension à l'effacement. Conscient de cette profonde injustice qu'était le monde dans lequel nous vivions, nous n'avions pas notre égal pour y excuser notre présence de mille manières. Incapable d'imaginer que notre compagnie pouvait être agréable ou désirable, nous était plus confortable de passer de longues soirées à regarder le monde à travers les pages d'un magazine, les basses puis hautes fréquences d'une émission radio, parfois la télé, mais toujours en sourdine. Maman, je n'ose t'imaginer dans ta cuisine à l'heure qu'il est, ni les sombres pensées qui te laminent le cœur. Je n'ai pas voulu partir, tu sais, je ne suis pas mon père, jamais je ne t'aurais fait une chose pareille. Je sais trop bien ce que tu as enduré. Si je donne l'impression de me remémorer cette enfance cassée en deux avec une forme inquiétante de légèreté, ce n'est pas pour donner le change. En vérité, cette prédisposition atavique à embrasser le sort peu enviable de la mot mariée m'a longtemps paralysée. Et il y a fort à parier que la fébrilité avec laquelle j'attendais un signe de toi ne devait pas être étrangère à l'expérience de couple qu'il m'a été donné d'observer jusqu'à l'âge de 13 ans, quand mon père s'est fait sauter le caisson, invariable relent et nauséeux karma qui finissait toujours par remonter à la surface lors de mes séjours, par ailleurs fort nourrissants et diablement régressifs, chez ma mère. C'était Un empêchement de Jérôme Aumont. Lors de la pause musicale, nous avons écouté une chanson de Nick Drake, Place to Be. Cette émission a été produite par Frédéric Guillon. Je vous propose d'écouter la suite dimanche prochain à 18h dans vos chapitres. Je vous souhaite une agréable semaine.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.